Cours de philosophie première par le Père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard le 23 mars 94.
Puisque il y a un passage de l'Aréto, Saint-Jodard, je leur dis un petit bonjour. Normalement, je devrais continuer la topique, mais comme c'est sur Hegel et que c'est particulièrement difficile, je reprendrai au terme de cette étude du relatif au plan métaphysique pour comparer les deux, puisque avec Hegel, on est en face de la position extrême du relatif qui absorbe la substance. La petite fille qui absorbe sa grand-mère. N'oubliez pas le point de vue symbolique. La substance, c'est la source. Et le relatif, c'est ce qu'il y a d'extrême. Et de fait, quand on regarde l'histoire de la philosophie à partir de Descartes, on voit progressivement le déclin de la substance. Pour que la relation prenne tout. Et l'influence des sciences ont joué là aussi un rôle très grand. D'acte et comprendre, quand on regarde le point de vue du relatif. D'autre part, il y a aussi avoir très fort dans notre pensée, puisque nous non sommes philosophes, mais croyants, et que le patrimoine de la théologie joue. Comprendre que dans la grande vision de Thomas d'Aquin, comme théologien, le mystère de Dieu dans son unité, c'est la substance qui est regardée en premier lieu, d'où la simplicité absolue de Dieu. Dieu est absolument simple. Il ne faut jamais oublier cette première conclusion de la théologie de saint Thomas. En réalité, n'est pas une conclusion, c'est une contemplation. Le regard contemplatif de Thomas d'Aquin sur Dieu, Dieu est absolument simple. Toute composition est rejetée pour découvrir la transcendance, le dépassement absolu. Nous n'avons aucune expérience directe de la simplicité. On en parle beaucoup, parce que justement, on n'a pas d'expérience. Alors le langage soutient le manque d'expérience. Toutes les expériences que vous avez, c'est de réalité complexe. Et le premier regard contemplatif sur Dieu du théologien, je dis bien du théologien de théologie scientifique, c'est Dieu est absolument simple. Et le second regard du théologien, le second regard contemplatif du théologien sur Dieu, il pénètre dans le mystère de la fécondité de Dieu. Le Dieu trine, c'est la relation qui est le support. Vous voyez, c'est très curieux. Notre contemplation sur Dieu dépasse tout ce que nous pouvons concevoir humainement. Nous ne contemplons pas nos cités. philosophe, au Dieu des chrétiens, ce que fait Pascal. Et depuis Pascal, beaucoup ont répété. Quand Pascal le dit, c'est intelligent, mais quand on le répète, c'est pas très intelligent. Et la plupart des gens qui répètent ça n'y comprennent rien du tout et font une opposition stupide. Vous comprenez très bien que si le philosophe atteint Dieu, mais il atteint Dieu. Et si le chrétien atteint Dieu dans sa foi, il atteint Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Dieu ne change pas. Il n'y a pas la pleine lune et le dernier quartier. Alors évidemment, le philosophe, c'est le dernier quartier. Et le chrétien, c'est la pleine lune. Il n'y a pas ça pour Dieu. Dieu est absolument simple. Donc, ou on le contemple, ou on ne le contemple pas. Et on reste dans son idée.
Vatican II. Et nous essayons de comprendre
une certaine contemplation théologique à partir de la foi sur le mystère du Père. Et c'est la relation qui me permet d'exprimer comment j'entre dans ce mystère qui me dépasse complètement, qui me transcende.
Ce qui est premier est ça.
simplicité divine. C'est pas la simplicité de l'être. Simplicité divine. Et cette simplicité divine est infinie. Et parce que cette simplicité divine est infinie, infinie dans sa substance, infinie dans son être, infinie dans sa vie, infinie dans son intelligence, infinie dans son amour, il n'y a aucune contradiction à affirmer que cet infini implique trois personnes. Personne ne divise pas Dieu. La relation n'est pas le fruit de la division. Et voyez, là, je vois bien que l'hégélianisme ne peut plus pénétrer dans ce mystère. Une autonomie absolue. absolue. L'intelligence veut la découvrir en se repliant sur elle-même et en découvrant alors en elle-même ce mouvement immanent d'une intelligence qui se développe elle-même, pour elle-même, en elle-même, par elle-même. Et c'est le développement dialectique. C'est ça qu'il faut bien saisir. Parce que si on ne saisit pas ça, on ne saisit pas ce qu'il y a de si important dans la métaphysique. Aristote dit, et il a raison de le dire, que si on fait de la métaphysique, c'est pour découvrir le nous, l'intelligence. Si vous ne faites pas de métaphysique, vous ne découvrirez jamais à la fois l'autonomie de l'intelligence et la dépendance de l'intelligence à l'égard de ce qui est. La dépendance de l'intelligence à l'égard de ce qui est ne nuit en rien à la dignité de l'intelligence. Au contraire, c'est la dignité de l'intelligence d'être toute relative à l'être, d'être toute relative à ce qui est, dans le jugement d'existence. Mais mon intelligence n'est relative à rien d'autre qu'à l'être. Mon intelligence n'est pas relative aux formes, non. La modalité de mon intelligence, qui connaît tout par un mode abstrait, est relative aux formes. Et ça, c'est la modalité de mon intelligence. C'est pas l'intelligence comme telle. L'intelligence comme telle, elle est, elle, dépendante de ce qui est, et uniquement de ce qui est. Et c'est là où on découvre combien l'intelligence est source de liberté. Découvrir que l'intelligence est toute relative à ce qui est. Le fameux adage de saint Thomas, primo catit in intellectus ens, c'est bien ça. Catit, donc ce qui est relatif à l'intelligence, c'est ce qui est. Découvrir que l'intelligence est toute relative à ce qui est, loin de nuire à la dignité de l'intelligence, nous fait découvrir la profondeur de la dignité de l'intelligence. À l'égard de tout le reste, elle est première. Donc elle n'est pas dépendante. Je ne peux pas dire que l'intelligence est dépendante des formes, mais non. Elle les reçoit. Oui, elle les reçoit. Elle les utilise. Donc elle les domine. Elle les dépasse. Toute quidité, n'importe quelle quidité, l'intelligence est supérieure à toutes les déterminations. Et à l'égard de l'être, elle est relative. Mais c'est là où on verrait la différence de la notion d'intelligence chez Aristote et chez Hegel. Parce qu'on verrait que pour Hegel, la dignité de l'intelligence, c'est de se regarder, c'est de se contempler. Et pour Aristote, la dignité de l'intelligence, c'est d'être réceptive à l'égard de l'être. Alors voyez, il y a une confusion entre la dignité de l'intelligence et la dignité de l'intelligence divine. La dignité de l'intelligence divine, c'est de se connaître. Parce qu'elle connaît Dieu en se connaissant. Mais la dignité de l'intelligence humaine, c'est pas de se connaître. Parce qu'en se connaissant, elle ne se connaîtrait pas Dieu. Elle s'arrêterait à une forme, la nature humaine. Tandis que, en connaissant l'être, elle reste ouverte à Dieu. Elle n'est pas limitée. Alors maintenant, essayons d'entrer dans la métaphysique du relatif. Il faut d'abord saisir cette expérience avez une expérience nette, la plus forte? Où est-ce que vous saisissez le mieux le relatif, hein? Posez-vous la question. Où est-ce que vous saisissez le mieux le relatif? En saisissant la relation la plus parfaite. Et en saisissant la relation la plus pure. Alors si vous voulez, nous allons commencer par deux grandes expériences. Extrême. La relation la plus parfaite, c'est dans l'exercice de l'amitié que vous la saisissez. Je suis relatif à mon ami. Et quelquefois, je suis tellement relatif à mon ami que je ne peux pas vivre sans lui. Alors, dressons vite trois temps. Et donc je n'ai qu'à disparaître. Pour être dans la vérité. extraordinairement forte, imaginative, dans l'ordre de l'amitié. Ceci pour vous faire comprendre comment l'amitié me fait vivre ce qu'est la relation. Je suis relatif totalement à mon ami, dans la complexité de mon être. Et tout se ramène à ça. Cette relation d'amitié qui me saisit, qui me prend et qui me prend très très profondément fait que si l'ami meurt, je disparais puisque je suis entièrement relatif à mon ami et que mon ami n'est plus là. Il vaut presque mieux qu'il meure que qu'il s'absente. C'est curieux, là encore on voit de tout point de vue imaginatif. S'il était mort, encore, je pourrais recommencer ma vie. C'est curieux. Mais il est absent. Et il est toujours vivant. Alors je ne peux pas me séparer de lui. C'est là où on voit que cette logique est purement imaginative. Mais elle est intéressante. Elle est intéressante et il faut la regarder de près. Parce que à ce moment-là, je comprends que de fait, l'amitié me met dans cette attitude d'être totalement relatif à l'autre, à l'ami. Mon ami disparaît. Moi, je suis changé en rien quant à mon être, quant à ma personne. Et pourtant, tout est changé. Alors, je saisis la difficulté de comprendre ce que c'est que la relation. Si l'amitié est une relation, comment se fait-il? Donc c'est quelque chose de réel. Comment se fait-il que l'ami disparaissant, tout en moi disparaît, alors que je ne suis pas touché? Je ne suis changé en rien dans ce que je peux constater. Et cependant, tout disparaît. Alors, la relation est-elle quelque chose de réel ou quelque chose de purement imaginatif? C'est tout de suite ce qu'on voit. L'autre expérience de la relation, c'est ce qu'on appelle, depuis Thomas d'Aquin, parce que je crois que c'est Thomas d'Aquin le premier qui a dit ça, Albert le Grand ne dit pas. C'est peut-être la création de Thomas d'Aquin, l'universel est une relation de raison. Or, vous pouvez avoir l'expérience intellectuelle de l'universel. Lorsque vous pensez à l'image, à partir du petit chat. Ce petit chat est un animal. Vous le pensez aussi à partir de vous. Je suis un animal. Je ne suis pas que ça, mais je le suis. À cause de mon corps, je suis lié à l'animalité. Par la biologie, je suis lié à l'animalité. J'ai quelque chose de commun avec le singe. Pas drôle, mais c'est comme ça. On est de la même famille génériquement, très fondamentalement. On est de la même famille. Animal peut s'attribuer à ce petit singe, peut s'attribuer. Sophisme, quand Mono cherche les éléments nécessaires pour que la vie apparaisse. C'est une recherche, tout simplement, du genre. Je descends le plus bas possible, l'œcuménisme le plus absolu. Quels sont les éléments nécessaires pour que la vie apparaisse ? C'est purement générique. C'est donc un être de raison. Et il en fait une source. C'est la source du vivant. Non, c'est pas la source du vivant, c'est l'aspect générique. La source de l'homme n'est pas l'animal. Bien que le « mon je suis » contient le genre animal. Le genre animal. Mais c'est pas la source de l'homme. Mais pourquoi ? Parce qu'on oublie que le genre est une relation de raison. Et on fait du genre une relation réelle. Alors, ce serait intéressant de savoir est-ce que le savant comme savant peut faire la distinction entre la relation réelle et la relation de raison ? Je crois pas. Je crois que le savant comme savant ne peut pas faire la distinction. D'où cette confusion. Et c'est très intéressant de voir ça chez la plupart des savants. Mais si au contraire, je suis un tout petit peu philosophe, je vois que le genre animal est attribué aux chiens, aux chats, aux singes et à moi. L'homme est un animal. Or je suis un homme, donc je suis un animal. L'attribution du genre animal. Qu'est-ce que c'est que cette attribution animale, attribution générique ? C'est une attribution universelle. Qu'est-ce que c'est que l'universel ? L'universel, c'est le fruit d'une pensée abstraite. Et universel, c'est une relation de raison. Alors, essayons de comprendre comment l'universel est une relation de raison. Parce que là, je suis en face d'une relation très particulière, tout à fait différente de la relation d'amitié. Opposez les deux. Et vous comprendrez que la relation est quelque chose de très difficile à saisir. Puisque l'amitié est une relation réelle. L'universel est une relation de raison. Mais tous les deux, c'est relation. L'universel, dans le genre, et le genre est ce qu'il y a de plus universel. Donc c'est l'universel au carré. C'est l'universel fondamental. C'est donc là où je dois saisir le caractère propre de l'universel. C'est dans l'attribution, dans un terme qui peut être attribué, que je dis que ce terme implique une attribution générique. Une attribution fondamentale. C'est donc une relation qui unit l'un et le multiple. La relation d'universalité unit l'un et le multiple. C'est extraordinaire, ça. Au plan métaphysique, au plan réel, l'un n'est pas le multiple, et le multiple n'est pas un. Il y a une division, et saint Thomas va jusqu'à dire que lorsqu'il est en présence de l'un et du multiple, il va jusqu'à dire que c'est une division réelle dans l'être. Aristote ne l'a jamais dit ça. Et Thomas d'Aquin le dit. C'est un aspect particulier de Thomas d'Aquin par rapport à Aristote. Pour lui, l'un et le multiple divisent l'être. Aristote, ça divise la propriété de l'être. Et la division de la propriété ne divise pas immédiatement l'être. Mais ça le divise quand même. L'être se divise en un et multiple. Et lorsqu'il s'agit de la relation de raison, de l'universel, lorsqu'il s'agit de ce qui qualifie ce que je connais, ce que j'atteins, il est universel. Le genre animal attribué à une quantité de choses, dans le genre animal qui est universel, l'un et le multiple s'unissent. L'universel, relation de raison, relation fabriquée par mon intelligence grâce à l'abstraction, unit l'un et le multiple. Et saint Thomas aime de répéter que l'universel, c'est un ad multos, un à partir du multiple, un vers le multiple, l'un dans le multiple. Et donc l'universel unit l'un et le multiple. C'est la relation qui fait ça. La relation de raison. C'est très curieux. Il faudra se demander pourquoi et comment la relation peut unir ce qui, au niveau ontologique, se divise. L'intelligence est capable de dépasser cette division de l'un et du multiple. C'est très important, ça, vous comprenez? Parce que dans tout mouvement dialectique, vous dépassez la division de l'un et du multiple. Parce que vous êtes à un niveau d'universalité. Et vous appliquez la dialectique au réel, comme si la dialectique exprimait quelque chose de réel. Alors vous voyez tout de suite que dans la dialectique, l'un et le multiple s'unissent. Alors que dans la réalité, l'un et le multiple se divisent. C'est quand même intéressant, ça. Ça vous pose quand même quelques petits problèmes. Donc, prenez l'expérience et réfléchissez sur l'expérience de la relation dans l'amitié et la relation dans l'attribution. L'homme est un animal. Ce chat est un animal. Ce singe est un animal. Qu'est-ce que c'est qu'animal ? C'est une notion générique. Et je suis en présence d'une notion universelle. Et l'universel, c'est une relation de raison. L'universel, c'est une relation. Et la relation entre l'un et le multiple. Vous comprenez tout de suite ? L'un, c'est moi. Le multiple, c'est l'universel. Animal. Animal contient une quantité de termes. Donc c'est multiple. Et il est attribué à l'un. Il faut réfléchir sur cette relation de raison qui est le multiple, qui est l'universel, pardon, et qui implique le multiple, et qui lie le multiple et l'un. À partir de là, je peux regarder d'autres relations. Quand je dis « Pierre est très semblable à Jacques », ils ont la même type d'intelligence. Ils ont une intelligence très spéciale, prudentielle. Pierre, tout à fait. Jacques aussi. C'est pas du tout des artistes. Non, non. Tandis qu'au contraire, Édouard et Hector, c'est des artistes. Tout ça, c'est des artistes. produisent une intelligence d'artiste semblable. Vous voyez, la similitude est une relation. Et une relation dans l'ordre de l'intelligence. Ou une relation dans l'ordre de l'affectivité. Ou une relation dans l'ordre artistique. La similitude. La grandeur. Pierre est plus grand que Jacques. Pierre pèse plus que Jacques. Donc, une dissimilitude dans les poids. Similitude dans l'intelligence et dissimilitude dans le poids. C'est curieux. Hein, l'intelligence n'est pas liée au poids. N'est pas liée à la corporéité, qui est le poids. N'est pas liée à la grandeur. Pierre est beaucoup plus grand que Jacques. Ils ont même intelligence. Comme c'est curieux. Un tout petit a la même intelligence qu'un très grand. Comment ça se fait, ça? Comment ça se fait qu'il peut y avoir une similitude de l'intelligence et une diversité dans le poids et dans la grandeur, alors qu'on devrait pouvoir unir tous les grands qui sont plus intelligents et tous les petits qui sont moins intelligents? Ce serait très, très agréable, ça, parce qu'alors je pourrais mesurer leur intelligence en fonction de leur grandeur et de leur petitesse. Alors je ne peux pas mesurer leur intelligence en fonction de la grandeur et de la petitesse. Alors, pourquoi je dis qu'ils ont même intelligence? En fonction du dialogue que j'ai eu avec eux. Et j'ai pu comprendre si mon intelligence était en accord avec celle de Pierre, en accord avec celle de Jacques. Et je dis, ah, ils ont même intelligence. Tandis que lorsqu'il s'agit de la grandeur, j'ai mesuré. J'ai mesuré. Donc je mesure la quantité, et je dis deux quantités semblables. J'apprécie une intelligence, je ne la mesure pas. Parce que je pourrais la mesurer, soi-disant la mesurer, par des tests. Mais je sais que ça ne signifie rien, parce que ça donne uniquement la quantité des tests. Et l'intelligence ne se ramène pas à la quantité, puisque Pierre est très grand. Jacques est beaucoup plus petit. Ils ont même intelligence. Alors ça te fait dégringoler tous les tests. La quantité ne mesure pas l'intelligence. Oui, comme c'est curieux la relation. Comme la relation me met tout de suite devant des problèmes extrêmement intéressants. Que la quantité et la qualité, c'est différent. Il y a des relations quantitatives. Il y a des relations qualitatives. Oh, c'est curieux. Vous voyez, la relation, ça passe partout. Ça passe dans le domaine de l'universel, et le domaine de l'amitié, ça passe dans le domaine de la quantité, et le domaine de la qualité, ça se fout partout, la relation. La relation transcende les prédicaments, puisque je la trouve dans la qualité, dans la quantité, dans le point de vue de l'amitié, dans l'universel. Ça transcende tout ça. C'est la première constatation que je fais. La relation transcende les prédicaments. Alors, est-ce que la relation transcende tout? Alors, là, je suis obligé de regarder que dans la réalité, la relation ne transcende rien du tout. Elle est au contraire l'être le plus débile, le plus faible. Alors comment ça se fait qu'elle transcende les catégories et qu'elle est le plus débile? Alors qu'est-ce que c'est que la relation?